Sur Radio Campus Tours. Chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio trois invités et nous allons parler du harcèlement scolaire. Mes invités aujourd'hui, c'est Cécile Lemaître. Vous êtes CPE au Collège de la Rabière à Jouy-les-Tours. Bonjour.
Oui, bonjour.
J'ai le plaisir également d'avoir ici Anne Gervais, inspectrice de l'éducation nationale et référente harcèlement pour le second degré. Bonjour madame.
Bonjour.
Et enfin, nous avons également le plaisir d'avoir Anne Mauclair, vous êtes chargée de mission climat scolaire et référente harcèlement dans le premier degré. Bonjour.
Bonjour.
Mesdames, merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de ce sujet du harcèlement au sein de l'école. Alors peut-être voulez-vous commencer par une mise en contexte, par nous expliquer ce que dit le ministère en fait de harcèlement scolaire, que prévoit la loi.
Alors le ministère de l'Éducation nationale a mis en place il y a 10 ans, très exactement, c'était en 2011, une plateforme nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Jusqu'à présent, dans les établissements scolaires, on traitait le harcèlement comme une violence ordinaire, alors que dans les pays voisins, on faisait un cas particulier des violences liées au harcèlement. Donc le ministère a mis en place un site pour le grand public, un numéro vert. Les familles peuvent téléphoner et donner des informations sur la situation vécue par leur enfant. Dans tous les départements, il y a actuellement 3 référents harcèlement qui sont chargés du traitement et également de la prévention du harcèlement. Pour la première fois cette année, il y a une journée internationale du harcèlement à l'école. C'était la première édition en novembre 2020 et ce sera maintenant un rendez-vous régulier chaque année. Cette journée internationale, puisque le harcèlement concerne tous les élèves, en particulier les écoliers, les collégiens, mais dans tous les pays du monde.
Alors Anne Gervais, à votre sens, qu'est-ce qui a lancé qui a permis cette prise de conscience il y a 10 ans? Vous l'expliquiez, de la mise en place de cette plateforme. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans pour que l'éducation nationale décide de changer ses pratiques?
Alors, en observant les pays voisins, les pays voisins de la France avaient déjà mis en place des plans spécifiques de lutte contre le harcèlement. Parce que le harcèlement est une violence particulière du fait que c'est une violence répétée. Hein. C'est pas une bagarre dans la cour de récréation, c'est pas une bagarre à la sortie de l'établissement. Ce sont des faits parfois assez insignifiant, je dirais, souvent en l'absence des adultes, et qui sont répétés quotidiennement ou de manière régulière, ce qui rend le harcèlement particulièrement insupportable pour celui ou celle qui en est la victime. Alors on distingue le harcèlement physique, mais aussi le harcèlement moral, des insultes répéter constitue un harcèlement. Une mise à l'écart, un isolement, c'est aussi du harcèlement. Et on a évidemment des phénomènes nouveaux, plus récents, qui sont le cyberharcèlement. C'est le caractère répétitif du harcèlement qui le distingue de la violence ordinaire.
Et je pense à ça lors de la journée internationale à laquelle nous avons assisté, le cyberharcèlement a été redéfini avec l'ensemble des acteurs présents et il s'avère que la répétition, elle a lieu en fait en un seul clic puisque c'est propagé à différents interlocuteurs, à différentes personnes qui sont sur le site. Donc en fait, la répétition, dès l'instant qu'on clique une fois, ça s'est déjà propagé. Et donc le cyberharcèlement arrive bien plus vite.
Alors vous évoquiez tout à l'heure là, que la France avait, bon, pas exagéré en disant 10 ans de retard en mettant en place cette plateforme, mais qu'en est-il du cyberharcèlement ? Est-ce que sur cette question-là, ce harcèlement spécifique-là, est-ce que la France est un peu en retard par rapport aux autres pays ou pas du tout ?
Non, la France ne connaît pas spécialement en retard sur le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est mondial et ça dépasse même le public scolaire. La force des réseaux sociaux, la résonance que donnent les réseaux sociaux en font un phénomène auquel il faut être très attentif. Et donc, notre rôle à nous, Éducation nationale, c'est d'éduquer les jeunes à l'Internet responsable et au risque d'une communication violente sur les réseaux sociaux.
Alors, vous avez expliqué en quoi ça consiste le harcèlement, hein, qu'il y a une idée de répétition. Et mesdames, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont plus à risque d'être harcelés que d'autres ?
Alors, on aimerait bien pouvoir aller... si on pouvait les repérer, on pourrait prévenir. Mais tout est motif de harcèlement. La taille, le poids... être petit, ça peut être un argument pour être harcelé.
Avoir les cheveux frisés,
être roux, être un enfant de couleur, être timide, être différent. D'une manière générale, c'est être différent.
Donc ça, c'est un mythe. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de profil. Non, on peut pas dire ça. Mais bon, le harcèlement, c'est un système. Hein. Il y a la victime. Il y a l'élève qui est auteur de harcèlement, qui agit seul, ou parfois en petit groupe. Et puis il y a la masse très nombreuse des élèves témoins, qui souvent imaginent qu'ils ont un rôle passif, mais leur passivité encourage les élèves harceleurs de continuer le harcèlement. Parmi les témoins, il y a les témoins indifférents, mais il y a les témoins qui rit, qui encourage. Et c'est sur ces élèves-là, témoins, qui sont les plus nombreux finalement, que on peut avoir un effet.
Alors, quels sont vous parlez d'avoir un effet, quelles sont les actions qui existent déjà, notamment auprès de ces élèves-là ?
On fait beaucoup de prévention, en fait, notamment sur... moi, je suis en collège, on fait beaucoup d'heures de vie de classe, où on travaille avec des classes entières. Alors, on ne travaille pas forcément sur le harcèlement directement. On travaille sur du vivre ensemble, en fait, sur apprendre à vivre ensemble. Et toute cette notion de respect, on peut commencer à travailler sur tout ce qui est moquerie, par exemple, et ces différences... pas de la même couleur, je suis plus petit, je suis plus grand, toute cette partie-là. Et puis on arrive à travailler sur ce harcèlement, sur l'isolement dont peut faire preuve l'enfant harcelé, bien sûr, et sur tous ces non-dits qui encouragent. Alors, pour l'anecdote, moi j'ai l'habitude de travailler avec une affiche tirée de pomme d'api, avec un petit groupe de lapins qui rigolent, et puis un lapin un peu différent, qui est tout seul. Au départ, c'est sur la moquerie, ça fait rire, ça fait mal. Et puis, on arrive assez vite sur ces notions de harcèlement. Et finalement, le fait qu'il y ait de l'image et que les enfants soient amenés à mettre leurs propres mots, ça amène à cette réflexion et à dire, bah oui, en fait, on peut agir. Et oui, juste rigoler, c'est encourager et c'est dire, continue, quoi.
Alors justement, Cécile Lemaitre, donc vous êtes CPE au collège Rabière, c'est ça ?
Rabière, oui, à jouer des tours.
Voilà, et vous êtes référente harcèlement dans le second degré. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer plus en détail en quoi ça consiste d'être référent harcèlement sur le second degré ?
Alors, c'est beaucoup d'observation, déjà, beaucoup d'écoute, beaucoup de présence sur le terrain. Oui, c'est ça, beaucoup d'observation, beaucoup de prévention, et puis un travail... en commun, enfin, on travaille tous ensemble, je veux dire, c'est pas moi toute seule dans l'établissement, on travaille, vraiment les équipes sont là, elles sont formées On intervient dans les formations aussi des professionnels, que ce soit les enseignants, les CPE, pour apprendre à conduire des réunions, à apprendre des techniques d'entretien pour être effectivement formés. C'est aussi une vigilance de tous régulièrement, c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple une cellule de veille toutes les deux semaines ou toutes les semaines, où interviennent les chefs d'établissement, les directeurs de SECPA, les adjoints, les PSY-EN, les assistantes sociales, les infirmières, et où c'est vraiment une veille de tous les instants sur l'ensemble des collégiens. Et voilà, c'est important ça.
Alors je me tourne vers vous. Comment ça se passe, Anne Mauclair, pour votre degré? Est-ce que vous agissez de la même façon que votre collègue, ou est-ce qu'il y a des spécificités à votre cycle d'enseignement?
Alors en fait, moi j'interviens souvent suite à un signalement, harcèlement, soit qui est fait par le biais de la plateforme au 30-20, soit qui peut être fait par les enseignants, par les inspecteurs, ou par des parents directement. Et j'interviens directement au sein de l'école, où je rencontre les élèves victimes, puis les témoins, puis les élèves, entre guillemets, dits harceleurs. J'utilise en fait la méthode de préoccupation partagée. Et à la suite de ça, je fais un peu comme ma collègue dans le second degré, c'est-à-dire que je réalise de la prévention à partir, j'ai une approche un petit peu cognitivo-comportementale, à partir d'affiches où les élèves se retrouvent, puisque ça peut représenter une cour d'école, ça peut représenter la cantine. Et l'idée, c'est de pouvoir se rendre compte de ce que sont en train de faire les élèves, de voir le rôle des témoins à chaque fois. Vraiment, ça, on insiste dessus. Et de montrer aussi la responsabilité des témoins. Et d'élaborer ensemble en fait une boîte à outils pour que eux puissent ensuite s'en saisir et se rendre compte de ce qu'ils peuvent faire ou doivent faire pour éviter ce genre de situation.
Donc là, ce que vous nous expliquez en fait, c'est que le recours à un support visuel, c'est indispensable en fait, parce que ça permet quoi? Que d'une discussion où les gens seraient peut-être en face à face.
Ça libère la parole, oui. Je pense.
C'est un support. C'est un support, oui.
Ça veut dire que ce serait, s'il n'y avait pas de tel support, peut-être que ce serait moins évident en fait, de faire échanger des élèves sur ces problématiques-là.
Le fait de leur proposer une image plutôt qu'un texte ou un écrit, c'est beaucoup plus ouvert, en fait.
Ça c'est permet beaucoup plus la projection. Libérateur. Oui, ça permet la projection, sans parler de soi.
Donc ça veut dire que dans le cas de ces accompagnements avec un support visuel, il y a aussi une idée quand même de ménager les élèves,
voilà, ah, bien évidemment.
Qu'ils soient harcelés, harceleurs,
ah oui,
ou témoins.
Oui, bien évidemment. D'ailleurs, moi j'ai eu des situations de harcèlement dans le premier degré depuis cette année, et les études le montrent, c'est-à-dire que si vous êtes virulente, si vous y allez de manière en force, l'élève, ça va plutôt avoir tendance à bloquer les élèves. Et les études ont montré que les sanctions, bien souvent, ne font que renforcer l'attitude du harceleur. Donc en fait, moi je travaille avec eux à la fin, c'est vraiment ça, c'est l'empathie. Pour qu'eux se rendent compte, en développant ces comportements psychosociaux, de ce qu'on fait à l'autre. Est-ce qu'on aimerait qu'on le fasse à soi? Et très souvent, à la fin de l'entretien, les élèves vont... y en a qui font des dessins, il y en a qui ont été s'excuser. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est vraiment pas d'arriver à la fin et sur une sanction, parce que ça ferait que renforcer l'événement.
Est-ce que vous voulez réagir, Hélène Gervais?
Oui, vous interrogiez tout à l'heure... Madame Lemaître, en tant que référente harcèlement, Madame Lemaître n'est pas référente harcèlement au sens...
Autant pour moi.
Où le ministère le conçoit. S'il y a des référents harcèlement dans les départements, c'est avant toute chose pour le traitement des situations. Hein. Madame Lemaître expliquait ce qu'au quotidien, elle fait au sein du collège pour prévenir et traiter les premières situations de harcèlement. Le rôle des référents... c'est d'apporter une réponse aux familles qui ont fait connaître une situation de harcèlement par la plateforme ou par un courrier direct à l'inspection académique. Donc notre rôle, c'est avant tout de traiter ces situations.
Donc là, ce que vous expliquez aussi, mesdames, c'est que quand il y a une situation de harcèlement, ça implique aussi bien l'établissement que la famille et que les élèves. Donc en fait, c'est une prise en charge globale où tout le monde doit être accompagné.
Tout à fait.
Et souvent, à la fin, moi, je réalise une équipe éducative pour effectivement essayer de remettre du lien à l'école. L'idée, c'est que l'élève puisse retourner à l'école et que dans une certaine sérénité. Et que les liens, vous savez, c'est restaurer aussi le climat de confiance et restaurer la confiance, cette relation de confiance entre les parents et les enseignants, qui peut, à ce moment-là, peut être entaché, j'ai envie de dire.
Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi, parce que là, vous dites qu'on peut espérer, en tout cas, restaurer le lien de confiance dans l'établissement, mais l'impact est trop lourd pour un enfant. Qu'est-ce qu'on peut imaginer
Vous avez raison de le dire, parce que quand les familles en arrivent au stade d'informer la plateforme nationale ou d'écrire à l'inspecteur d'académie, c'est parce qu'elles considèrent que dans l'établissement, elles n'ont pas reçu la réponse qu'elles attendaient. Or, moi, mon premier réflexe, c'est de prendre contact avec l'établissement. Je prends contact avec l'établissement avant d'appeler la famille. Je veux savoir si l'affaire est connue dans l'établissement et je veux savoir ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a eu des rendez-vous, des rencontres avec la famille, avec l'élève? Je m'aperçois que dans 99% des cas, la situation est connue de l'établissement. L'établissement a déjà organisé des rencontres, pris des mesures, etc. Il y a aussi beaucoup de maladresse dans le traitement de ces situations. Il faut savoir qu'un établissement scolaire, un collège en particulier, c'est plusieurs centaines d'élèves qui se croisent, qui se côtoient dans les couloirs, dans les cours, à la demi-pension, aux toilettes, à l'arrêt bus. Et donc, il y a plein de micro-événements toute la journée et qu'on ne peut pas non plus qualifier de harcèlement. Hein. Et le tort qu'on a sans doute, c'est de minimiser ces situations, hein, de ne pas les prendre suffisamment en considération. De fait, les familles, quand elles saisissent la plateforme harcèlement, ont tendance à demander des sanctions lourdes vis-à-vis des auteurs, comme si la sanction allait réparer le dommage qu'a subi leur enfant. Bon. Et donc, il y a tout un travail là, de pédagogie à faire avec les familles, justement pour leur expliquer qu'une sanction lourde vis-à-vis du ou des élèves auteurs de harcèlement pourra avoir un effet, au contraire, de renforcement, hein, et qu'à terme, il faut réapprendre à ces élèves, garçons et filles, à vivre ensemble. Hein. Le collectif, c'est pas forcément avoir des relations d'amitié avec l'ensemble des élèves d'une classe, hein, mais c'est d'être capable de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'être élèves ensemble. Et donc ça, c'est déjà un pas à faire. Et évidemment, il y a des familles, puisque vous posiez la question, qui perdent confiance dans l'établissement d'origine de l'enfant et qui réclament un changement d'établissement. Considérant souvent à tort que changer l'enfant d'établissement réglera définitivement les problèmes. Alors, on est parfois obligé, devant l'insistance des familles, en tout cas en collège, d'accepter un changement d'établissement. Mais on résiste en même temps, parce que l'objectif, c'est quand même d'apprendre ces élèves à vivre ensemble et à se respecter mutuellement malgré leurs différences.
Donc là, est-ce qu'on peut dire qu'à votre avis, ce changement d'établissement, c'est déplacer le problème ?
C'est ce qu'on peut craindre, Qu'un enfant change d'établissement, c'est forcément en plein milieu d'année scolaire, qui arrive dans un nouvel établissement, soit considéré d'emblée comme un vilain petit canard, si vous voulez. Hein. Alors que le maintenir dans son collège, en mettant en place évidemment tout un dispositif de vigilance et puis des actions de prévention, pourra permettre, et c'est ce qui se produit heureusement, pourra permettre de dépasser cette situation.
Alors, on a l'impression que ce que vous expliquez, mesdames, c'est que quand on attrape un fil, en fait, de harcèlement, quand on tire dessus, ça détricote le pull au vert.
Oui, complètement. Oui, c'est exactement complètement. Ça. Oui, mmh. Oui, puisque c'est vraiment un système. Hein. Et donc, effectivement, on tire le fil et il faut... Bon, détricoter, c'est bien, mais après, il faut réapprendre à...
C'est ça, réparer.
Voilà. Mmh.
Ça parce qu'il y a, on peut supposer aussi que dans des cas de harcèlement, il y a donc déjà la situation de l'élève ou des élèves qui sont auteurs de harcèlement, parce que qu'est-ce qui les pousse à agir de cette façon-là ? Peut-être que là aussi il y a une situation problématique.
Oui, et ces élèves-là, ouais. Parce qu'on a souvent dans le harcèlement, on pense à la victime, mais on pense moins aux auteurs. Bon. Et les auteurs ont aussi besoin d'être aidés, souvent. Parce que très souvent, ils ne sont pas conscients du mal qu'ils font, mais non, on jouait, disent-ils. Alors en particulier dans le premier degré, ils ont le sentiment qu'ils jouaient, vous voyez.
Ou alors ils n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent faire. Ils n'imaginent pas qu'ils peuvent faire autant mal. Mais effectivement, moi, on se rend compte qu'un élève qui va sans arrêt... embêter un autre élève, c'est un élève qui souffre pour une quelconque raison. Et moi, souvent, lors des entretiens, je l'entends et ils le disent. Et c'est des choses, parce que j'en compte les familles, j'en parle. Et avec eux, je suis assez... on en discute. Et donc, il y a une prise en charge après de l'enfant qui agresse, bien sûr, parce qu'il souffre, cet enfant-là. C'est important.
Alors, ce qu'on peut entendre peut-être aussi dans ce que vous expliquez, mesdames, c'est de dire quand des jeunes ou des enfants disent « mais je ne savais pas que c'était du harcèlement, je ne savais pas que la personne souffrait », c'est peut-être parce qu'ils vivent des situations similaires dans leur vie personnelle et qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est anormal.
Ou alors à l'école même, moi j'ai eu des situations où on bascule très vite du harceleur ou harcelé. Et j'ai eu des élèves qui harcelaient d'autres élèves, mais qui eux-mêmes étaient harcelés. Vous voyez ? Et en fait, qui reproduisaient un petit peu ce qu'ils vivaient avec d'autres.
Puis on se heurte aussi à, parfois, la méconnaissance par les enfants de la définition du harcèlement. Alors, on n'est pas, le harcèlement, c'est pas forcément de la violence physique. Ça peut être des choses très anodines, on l'a dit tout à l'heure. Enfin, si je prends un exemple d'une petite fille... d'une collégienne qui venait avec une grosse barrette à paillettes. Une fois, elle est jolie, ta barrette, c'est un compliment. Deux fois, on peut être dans la moquerie. Si c'est à chaque fois qu'on la croise, on est dans du harcèlement. Et peut-être qu'elle n'osera plus jamais la mettre, sa barrette. Et quelquefois, les enfants n'ont pas conscience, en fait, de la gravité ou effectivement du mal qu'ils peuvent faire à l'autre en face.
Donc ça questionne aussi le rapport à la violence des gens.
Oui, alors de même qu'il n'y a pas de profil type de la victime, il n'y a pas de profil type non plus des auteurs. Alors on peut imaginer que c'est des enfants qui côtoient la violence à l'extérieur, mais ce n'est pas forcément le cas non plus. Hein. Ça peut être un très bon élève qui a beaucoup de mépris pour ses camarades, ça peut être... Non, il n'y a vraiment pas de profil type. Ce qui est certain, c'est que cet élève n'a pas conscience du mal et de la nuisance qu'il provoque.
Alors pour rester aussi sur l'idée du rapport à la violence, là je me place du côté des établissements peut-être, puisque vous expliquez aussi que des fois les établissements peuvent dire « Oh, c'est pas très grave ». Ah, ça passe inaperçu parce que les gens ne mesurent pas la gravité des faits. Est-ce que là, ça questionne pas aussi le rapport à la violence, en fait ? De se dire, qu'est-ce qu'on considère comme acceptable ?
Le harcèlement, il est quand même, à la base, invisible pour les adultes qui sont présents. Moi, j'ai pu me rendre compte aussi, j'ai pu voir du harcèlement dans une classe. Et l'enseignant ne voyait pas. Le harcèlement est invisible pour les adultes. Et donc, c'est aussi ça, l'intérêt, là, c'est de pouvoir, travailler davantage sur des signaux faibles, vous voyez ? On pourrait repérer.
Alors, quels sont-ils, ces signaux faibles ?
Ça peut être des enfants qui vont être isolés. Un enfant qui vient vous dire quelque chose, des fois, on va pouvoir tendance à dire « Ah, ben là, vous jouez !» ou « Vous voyez, on ne voit pas tout de suite qu'il se passe des choses, des fois. » C'est peut-être d'avoir peut-être une oreille plus attentive, une vigilance peut-être plus accrue, et un élève, les résultats vont chuter brutalement. Un élève ne veut plus venir à l'école, élève...
Il ne veut plus aller en récréation.
Voilà, c'est ça.
Il vient se réfugier dans les bureaux. Enfin, tous ces petits signes qui font que...
Oui.
Voilà, on est plus attentif.
Et puis des fois, on peut supposer, par exemple, si c'est un élève qui a des difficultés ou d'un comportement particulier en classe, donc peut-être qu'il y a aussi des enseignants qui sont agacés. Donc finalement, certains camarades vont se dire, même les profs, en fait, ils réagissent à tel élève qui fait tout le temps du bruit, qui pose tout le temps des questions auxquelles on a déjà répondu, par exemple. Donc du coup, de se dire, vous voyez, mais même, en fait, ça... C'est difficile de se rendre compte en fait que chacun mesure quel impact il a sur le comportement des autres.
Oui, d'autant que le harcèlement se déroule souvent en dehors du regard des adultes. Il y a des lieux qui sont idéaux pour le harcèlement. C'est les couloirs, les interclasses.
Les toilettes.
Les toilettes, vous voyez, des lieux qui échappent un peu à la surveillance des adultes.
La cantine, la pause méridienne. Dans le premier degré, la pause méridienne.
Mais alors ça, si vous dites que les lieux de harcèlement sont souvent loin du regard des adultes, ça questionne quand même le fait de ne pas avoir conscience de ce qu'on fait. Si les agissements ont lieu spécifiquement hors du regard des adultes, c'est-à-dire qu'on se doute bien que quand même c'est peut-être une bêtise ou si c'est fait loin du regard des adultes.
Non, conscience était peut-être dans le sens de la force, de l'impact. C'est ça, ce que l'élève n'a pas conscience. Il sait probablement qu'il va embêter son camarade quand même. Ça je pense qu'il en est conscient. Mais il imagine pas à quel point. C'était ça, je pense, Hélène,
fait,
que
oui.
Tu voulais
dire.
Oui, il ne caractérise pas en fait de harcèlement, en fait. Oui, un élève qui va donner une claque sur la tête d'un autre, non, il ne va pas le faire devant l'adulte parce qu'il sait qu'il va se faire reprendre. Mais il n'a pas forcément conscience de ce que ça engendre pour la victime.
Alors, je me pose aussi la question de qu'est-ce qui se passe dans un établissement pour un chef d'établissement ou une équipe éducative quand Hélène Gervais ou l'une de vous, mesdames, appelle pour se renseigner, pour enquêter sur une situation de harcèlement. C'est pas forcément bien vécu, j'imagine.
Par l'établissement ?
Oui.
Oh, ils ont malheureusement l'habitude qu'on leur demande des comptes. Non. Ils prennent la chose très très au sérieux et très très rapidement. Je reçois un compte-rendu très détaillé de tout ce qui a été fait par l'établissement. La famille a très souvent été reçue, l'élève victime bien sûr, les élèves auteurs ont été entendus, on a essayé de confronter les points de vue, etc. Non, les établissements savent bien qu'ils peuvent être amenés à rendre des comptes sur ces situations-là. Ils se sentent aussi un peu impuissants quand même à couper définitivement ces situations, quoi. Ils ont fait des choses, ils ont noté des progrès tout de même, mais pour autant l'élève victime ne revient pas nécessairement au collège dans les semaines qui suivent. En se sentant en sécurité, protégé, on ne rétablit pas comme ça un climat apaisé dans une classe quand on a été amené justement à mener une enquête un petit peu serrée sur les relations entre les élèves, ce qui se passe. Donc ça demande aussi un certain temps pour que la chose soit dépassée et que la classe retrouve un climat apaisé.
Mais étant donné que la situation, quand elle est prise en charge, ça rassure aussi la famille. quand on les a au téléphone, ils savent que la situation, qu'ils sont entendus, que leur problématique
est prise en compte,
va être traitée. Donc ça, si vous voulez, déjà l'enfant, l'élève sait, par le biais de ses parents, que quelqu'un va intervenir ou que quelqu'un est en train d'essayer de l'aider. Donc déjà, quand même, il se passe des choses dans leur esprit. Et une fois qu'on a fait l'intervention, qu'on a eu ces liens avec la famille, ça permet quand même d'enlever cette pression supplémentaire qui était là. Ça permet de se dire la situation aussi est traitée.
Il y a aussi peut-être une idée pour la famille et l'enfant qui est victime de harcèlement, d'être cru.
Oui.
De se dire, on me croit, en fait.
Donc, oui.
On m'entend. Oui. Mais aussi, vous savez, pour les familles d'élèves harceleurs, hein, quelque part. Moi, j'ai vu des familles où même on m'a demandé, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la maison, pour travailler un petit peu dessus avec lui, avec cet élève-là ? Et effectivement, les familles des élèves harceleurs ont besoin aussi d'être accompagnées, ça les soulage aussi.
Oui, il y a aussi un élément qu'on oublie, la victime a souvent honte d'être victime. Non seulement elle est victime, mais elle a honte. Et parfois, ces élèves harcelés ne le disent pas à leurs parents, pour pas... créer d'ennui, pour pas faire aveu de faiblesse devant les parents, rendre les choses... Et donc, ils taisent l'information, ils la gardent pour eux, et quand ils font cette révélation aux parents, quelquefois après des semaines ou des mois, c'est pourquoi aussi les parents, je le disais tout à l'heure, demandent des sanctions lourdes. Quand l'enfant le dit à ses parents et qu'il révèle... que ça fait 3 mois que ça dure, par exemple, et qu'il n'a rien dit, qu'il n'a pas osé dire. Les médias se chargent, évidemment, de monter en épingle, le terme ne convient pas, de mettre en avant des situations tragiques, dramatiques, de harcèlement. Donc, tout de suite, les familles ont peur pour leur enfant, ce qui est légitime. Hein. Mais la victime a souvent honte d'être harcelée.
Et elle explose, et c'est quand elle explose que
la victime se dit, j'ai quelque chose de différent qui me distingue de mes camarades et qui conduit à cette situation. Et quelques-uns se sentent même coupables, vous voyez ?
Ils ont une faible estime d'eux-mêmes, et si vous voulez, ils ont aussi envie de remonter dans l'estime du harceleur, quelque part. C'est ça qui taise le temps de faire cette expérience-là, qui taise la situation.
Parce qu'il arrive que la victime a été, au début du harcèlement au moins, un allié de l'élève auteur de harcèlement. Un élève isolé, par exemple, qui est soudainement sujet d'insultes, mais d'insultes légères, etc., peut dans un premier temps le prendre comme un intérêt soudain qu'on lui porte. Il a tout à coup de l'importance, bon. Sauf que l'insulte gentille l'est de moins en moins, et puis répétée quotidiennement, elle devient franchement insupportable. Et la victime devient à ce moment-là vraiment une victime avec tout ce que ça comporte de souffrance, d'isolement, de honte.
Donc là, il y a l'idée de la culpabilité, on la retrouve aussi peut-être parmi les équipes éducatives, finalement, de se dire parfois dans certains cas, mais on n'avait pas vu, on n'avait pas compris que tel élève était à ce point en souffrance.
Oui. Donc, oui, moi je le rencontre avec les enseignants, et c'est vrai que je leur rappelle que ça fait partie de la caractéristique, des caractéristiques du harcèlement, de ne pas avoir vu. Ça fait partie de la définition du harcèlement.
Je vous propose, mesdames, avant que de continuer cet échange, de faire une première pause musicale. Et nous allons écouter un peu de flamenco. On se retrouve tout de suite après dans cette émission La Méridienne. Vous écoutez Radio Campus Tour.
Muchas gracias también a Camarón de la Isla, que vuelve a cantarnos a nosotros ahora unos tangos maravillosos. Thank you.
usted se me abraza al hombro, su brillo de luz de luna iluminaba en tus ojos. Si lo quieres y tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua.
Un peu de flamenco dans la Méridienne. Vous écoutez toujours Radio Campus Tours, chers auditeurs, nous parlons de harcèlement à l'école et au collège. Alors, Hélène Gervais, quand même, à toutes fins utiles, est-ce que vous aimeriez rappeler quelles sont les missions principales de l'éducation nationale ?
Oui, on pense souvent à lire, écrire, compter, mais on a ajouté ces dernières années respecter l'autre, et c'est une mission essentielle de l'école, mais que l'école partage aussi avec les familles. Le premier lieu de l'éducation au respect de l'autre, c'est la famille.
Voilà, et donc en fait de harcèlement, donc on a quand même pu dans cette première partie d'émission expliquer en quoi ça consiste, mais il y a aussi de nombreuses actions de prévention qui sont mises en place, notamment un plan de formation et un concours, je crois. Alors, est-ce que Anne Mauclair et Cécile Lemaître, vous voudriez nous en dire plus sur ces différentes actions qui existent ?
Alors oui, tout à fait. Alors dans le premier degré et dans le second degré, il y a donc le concours de non au harcèlement, de lutte contre le harcèlement qui est en novembre, tous les ans en novembre, où là, les élèves, les collégiens peuvent participer en créant une affiche, en créant des scénettes, en créant un film. Et donc, c'est un concours national. Et il y a aussi un prix non au harcèlement. D'ailleurs, je vous ai amené l'affiche parce que cette année, c'est le département 37 qui a obtenu le prix national de non au harcèlement. Donc, c'est l'école des cerisiers de Saint-Branc.
Voilà, donc on aura le plaisir, si vous nous la laissez, cette affiche, de l'afficher dans nos locaux. Donc voilà, ça suffit, non, le harcèlement, parlons-en. Donc on voit une jeune femme, en fait, sur cette affiche. Donc ça a été réalisé par la classe.
Oui, c'est ça. Et puis alors, il y a d'abord une sélection académique, une sélection départementale qui est envoyée à l'académie, puis une sélection académique et enfin une sélection nationale. Et donc, ils ont obtenu le prix, là, il y a une semaine, tout récent.
Voilà, donc on les félicite bien évidemment pour ce prix.
Après, en collège, je sais qu'il y a des actions particulières. Il y a les élections des ambassadeurs dans certains collèges.
Dans certains collèges, on travaille effectivement avec des ambassadeurs anti-harcèlement. C'est la médiation par les pairs, permettre aux élèves de encourager, s'accompagner, s'écouter et faire en sorte que finalement la vigilance soit accrue, que ce soit pas juste les adultes qui soient vigilants, que ce soit aussi entre pairs, qu'on fasse attention à l'autre, qu'on respecte l'autre et donc qu'on accompagne l'autre en cas de difficulté, harcèlement ou autre d'ailleurs. Donc c'est des formations qui sont mises en place de plus en plus dans les établissements. Donc ça implique des personnels formés qui forment les premiers ambassadeurs élèves et après c'est une forme d'auto-formation entre élèves, entre pairs. Et ça fonctionne très bien.
Peut-être que la parole d'un père est plus facile à entendre.
Mmh. Bien sûr,
oui. Mmh. Oui.
C'est plus accessible aussi de parler à un de ses pairs que d'aller chercher l'adulte. Mais
Oui, et ces ambassadeurs ont un rôle en particulier sur les témoins. Ils encouragent les témoins à dénoncer les faits de harcèlement. Et pendant longtemps, on avait des ambassadeurs uniquement dans les lycées. Mais depuis cette année, on en met en place dans les collèges, oui. Ouais.
Alors comment ils sont formés justement, ces ambassadeurs? En quoi ça consiste la formation qu'ils reçoivent?
Ben, c'est surtout de la formation à l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut leur apprendre à être dans l'écoute, à être dans l'écoute active et à être avec cette notion d'empathie. C'est une formation vraiment à presque ce qu'on fait aussi avec les professionnels, les futurs professeurs ou CPE, à des techniques d'entretien et à faire en sorte que on écoute, on entende, mais on n'incite pas en fait.
Et on répète pas.
Pardon ?
Et on ne répète pas des fois aussi ce qui a été dit,
oui.
Sauf si c'est
Alors,
utile.
Oui, non, on ne répète pas, sauf s'il y a danger.
Et ça, ces responsabilités, elles sont très valorisantes, j'imagine.
Bien sûr,
Pour les élèves. Donc c'est pareil, là, s'il n'y a pas de profil type de harcelé, de harceleur, est-ce qu'il y a un profil type d'ambassadeur ou d'ambassadrice ?
Non, j'ai envie de vous dire. On commence souvent, bien sûr, avec des élèves volontaires. Donc, les premières sessions de formation, c'est souvent des élèves plus à l'aise, qui peuvent être déjà délégués de classe ou qui ont déjà eu envie d'exercer des responsabilités. Mais ça donne vite envie aux autres aussi d'être dans ce statut qui est effectivement valorisant et qui permet de développer aussi des compétences pour après.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes, justement, qui sont volontaires pour faire ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils ont envie?
Ils ont envie pour aider les autres, pour accompagner leurs camarades. Enfin, je crois que c'est un vrai souci j'ai pas envie qu'à côté de moi, on soit mal, quoi. Un vrai besoin de travailler sur se vivre ensemble avec nous, quoi.
En tout cas, c'est une réalité concrète, ça fait sens, c'est pas quelque chose qui leur est imposé.
Ah non, jamais.
Alors, oui, pardon.
Il y a aussi beaucoup, il y a des difficultés, mais il y a aussi beaucoup d'altruisme chez les élèves de cet âge-là. Mm. Et donc, on trouve assez facilement des volontaires pour ces rôles d'ambassadeurs.
Alors sur le fait de la formation peut-être des équipes enseignantes éducatives, qu'est-ce que vous aimeriez en dire?
Alors tout d'abord, de plus en plus, moi cette année je suis intervenue plusieurs fois en formation auprès des néo-directeurs d'école et aussi auprès des enseignants stagiaires où on les informe sur ce qu'est le harcèlement. Pour les sensibiliser à ça. Et je fais partie du groupe de travail académique pour le déploiement du programme Clé en main harcèlement. Donc on faisait pas partie de l'Académie Orléans-Tours ne faisait pas partie de l'expérimentation, mais à partir de septembre là, 2021, il va y avoir en fait un bassin, si vous voulez, un collège et une circonscription où 5 personnes du collège et 5 personnes de cette circonscription-là, c'est-à-dire ça peut être l'IE, ça peut être l'inspecteur, ça peut être des directeurs, ça peut être des enseignants qui sont volontaires hein, et qui vont être formés à ces 8 jours de formation en 2 ans pour devenir des personnes ressources sur le harcèlement. Vous voyez, l'idée, c'est que ça se déploie et qu'il n'y ait pas que ce soit davantage pris en compte et qu'il y ait de plus en plus de personnes de l'éducation nationale qui sachent, un, repérer et deux, prendre en charge une situation de harcèlement.
Comme les gestes de premier secours, alors, somme toute.
Comme oui. Les gestions de crise, oui, tout à fait.
Il y a déjà beaucoup de personnel, en tout cas dans les établissements du second degré, qui sont sensibilisés, à défaut d'être formés au sujet du harcèlement. Les conseillers principaux d'éducation, mais également les infirmières, les assistantes sociales, les psychologues de l'éducation nationale, tous ces personnels sont sensibilisés à la question du harcèlement. Alors c'est vrai que à la rentrée 2021, on va faire un effort de formation des personnels plutôt enseignants cette fois. Et on a cette année, à la direction académique, signé une convention avec l'Observatoire des violences, l'ARCA de Tours, qui a recruté 3 services civiques qui ont été formés par l'ARCA et qui interviennent dans les écoles et les collèges. Ce sont 3 jeunes par définition, puisque ce sont des services civiques qui ont été recrutés avec cette mission, oui, d'intervenir auprès d'écoliers, auprès de collégiens, sur le harcèlement.
Pour faire de la prévention.
Oui.
Oui, ils font de la prévention.
Voilà, donc on voit qu'il y a énormément de choses hein, qui sont prévues sur l'aspect prévention. Vous nous expliquiez aussi au début de l'émission quelles sont les mesures qui sont prises en cas de harcèlement, hein, quand le fait est déjà là. Alors peut-être, mesdames, puisque midi approche, peut-être est-ce que vous aimeriez nous rappeler qu'est-ce qu'on fait quand il y a en cas de harcèlement, nous redonner quelle est la marche à suivre.
Qui
bah, qui veut.
Non, mais qui, en cas de harcèlement, mais qui.
Voilà, si par exemple, des enseignants identifient ou suspectent une situation de harcèlement, que peuvent-ils faire? Que doivent-ils faire?
D'abord, si on a un conseil à donner à l'élève victime de harcèlement, comme l'indique l'affiche voilà. Qui a eu le prix national, il faut en parler. Hein. Il y avait, il y a quelques années, un slogan, le harcèlement, pour que ça s'arrête, il faut en parler. Ben, l'affiche dit, le harcèlement, parle-en. Hein. Puisque je le disais tout à l'heure, la victime met souvent du temps à le dire, y compris à ses parents. Ensuite, quand on est enseignant et qu'on observe une situation de harcèlement dans la classe, et on est enseignant, on est aussi éducateur, donc on peut arrêter temporairement le cours et peut-être parler de la situation avec l'ensemble de la classe. Et puis il ne faut pas hésiter dans ces situations-là à interpeller le chef d'établissement qui est le dernier responsable de ce qui se passe dans l'établissement, qui lui pourra convoquer les familles, la famille de l'élève victime, mais aussi les parents et les élèves qui sont auteurs, qui pourra convoquer une équipe éducative, un conseil de discipline si c'est nécessaire. Voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser ces situations sans écoute et sans traitement.
Vous sentez parfois qu'il y a une... Enfin, dans des cas, c'est sûrement... rare, mais est-ce qu'il peut y avoir une peur de la part des équipes éducatives de signaler certaines choses?
Non. En même temps, c'est très banal, ces situations de harcèlement. C'est malheureusement banal, d'une grande banalité. Donc non, il n'y a pas de peur de la part de l'équipe de direction ou de l'équipe enseignante. Non, je disais, il y a plus sans doute un sentiment d'impuissance à traiter ces situations. Mais il n'y a pas de... Non.
Et alors, du côté des parents, on peut peut-être rappeler cette plateforme. Comment on fait quand notre enfant se plaint, en fait, d'être victime de harcèlement? Qu'est-ce qu'on fait quand on est parent?
Il y a le numéro national, gratuit, qui est le 3020.
Mais avant le 30 juin, l'idéal, c'est
prendre contact avec l'établissement.
D'être en lien et d'évoquer la situation avec l'enseignante.
Oui, avant d'appeler la plateforme nationale, c'est d'abord d'informer, de prévenir le chef d'établissement. Et la plateforme nationale...
Essayer de résoudre cette situation problème avec l'établissement d'abord.
Oui. Quand la situation perdure ou quand la situation est, du point de vue du parent, insuffisamment prise en compte. Mais avant tout, le problème doit se régler dans l'établissement.
Et c'est pas en sanctionnant, encore une fois, hein, c'est vraiment ça, c'est pas en sanctionnant, si vous voulez, qu'on va faire que le harcèlement cessera. L'important, c'est de travailler, et dès le plus jeune âge, sur les comportements psychosociaux. En faisant développer l'empathie, en faisant développer, vous savez, à travers des jeux de coopération, à travers des débats à visée philosophique. L'important, c'est que les élèves puissent se respecter et vivre ensemble, et travailler le vivre ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on pourra lutter contre le harcèlement.
Est-ce que vous voyez déjà peut-être un changement chez les élèves vis-à-vis du harcèlement? Est-ce que vous voyez des comportements qui ont évolué positivement au cours de ces dernières années? Ou est-ce que pour le moment il n'y a pas de changement majeur?
Disons que dans un établissement, dans un collectif, donc il y a forcément toujours des tensions et des conflits. Après, mesurer l'amélioration, j'ai envie de dire oui, malgré tout, puisque depuis quelques années, ben voilà, si on parle des ambassadeurs élèves, on a quand même de plus en plus de volontaires. Donc c'est une vraie démarche positive aussi dans la lutte contre le harcèlement, contre les violences en général. Oui. Que la parole est plus facile aussi quand on travaille avec les enfants, avec les classes. Je trouve que la parole est plus libérée. Et ça aussi, c'est positif.
Le climat scolaire aussi contribue à un climat plus serein dans le collège, dans la classe. Ce qui fait que c'est un sujet que finalement, n'importe quel enseignant de n'importe quelle discipline peut travailler. Le respect de l'autre, le respect de la parole de l'autre, la distribution de la parole, des comportements respectueux, tolérants. C'est le rôle de tout enseignant de développer ces qualités chez les élèves.
Alors si jamais il y a des enseignants qui nous écoutent ou alors des étudiants qui se destinent à ces métiers, est-ce qu'il y a, mesdames, des ressources en ligne ou autres que vous aimeriez recommander?
Oh là oui. C'est pas compliqué, il suffit de taper NAH, non au harcèlement, c'est la plateforme nationale, c'est un outil qui est extrêmement bien fait, c'est un outil grand public, qui s'adresse aux élèves, aux parents, aux enseignants, qui fournit des fiches, des outils,
des vidéos.
Des flashs, il y a des pédopsychiatres qui interviennent, il y a des séquences pédagogiques, un enseignant qui voudrait intervenir dans sa classe et qui se sentirait démuni trouve sur ce site des séquences pédagogiques toutes construites. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'informations. Vraiment, c'est un site très très bien fait, constamment réactualisé. Il y a aussi beaucoup de littérature enfants, littérature adolescent, qui traite du sujet du harcèlement.
Il y a le site EduSchool aussi. Sur le site EduSchool, après, vous avez il y a de nombreuses informations. Il suffit d'après de rentrer le sujet sur lequel vous voulez avoir des informations.
Et il y a aussi les radios et les télés. Et vous imaginez bien quand on regarde toutes ces émissions, dont certaines sont très bien faites. Je dois le dire, oui.
Vous en auriez quelques-unes à nous recommander, alors? Émission très bien faite.
Sur le harcèlement?
Je n'ai pas retenu les noms des...
Non. On les ajoutera au podcast de cette émission, alors, sans aucun problème, ainsi que tous les liens que vous nous avez cités. Mesdames, je vous remercie infiniment d'avoir accordé du temps à cette émission La Méridienne sur Radio Campus. Je vous invite évidemment, chers auditeurs, à la retrouver sur notre site radiocampustour.com et j'en profite pour saluer au passage mon collègue Sébastien qui toute cette semaine emmène la radio au collège Jules Robin, radio FMR que vous pourrez écouter à Saint-Avertin et alentour sur une fréquence temporaire. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos programmes et je vous souhaite bon appétit puisque, ma foi, c'est bientôt l'heure de se retrouver derrière une assiette. Bonne journée à tous.